aujourd'hui à Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guerriac et Abdourahmane Dia en direct de la capitale américaine, lundi 13 mai 2019, Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel. Au sommaire ce soir.
Dans le nord du Cameroun, des dizaines de maisons et une église ont été incendiées par des membres présumés de Boko Haram.
En RDC, les forces de sécurité ont repoussé une nouvelle attaque contre un centre de traitement d'Ebola.
Au Soudan, militaires et contestataires sont parvenus à un accord sur un nouveau conseil souverain qui va remplacer le conseil militaire.
La Chine annonce une hausse de ses droits de douane sur des produits américains de 60 milliards de dollars.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal.
Au Niger, des hommes armés ont attaqué la prison de haute sécurité de Koutoukalé dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays. Le ministère de l'Intérieur confirme l'attaque sans donner de bilan. La prison de Koutoulé accueille en grande partie des présumés terroristes et avait déjà subi une attaque en 2016.
Et dans le centre du Mali, plus de 10 civils peuls ont été tués aujourd'hui à Herémakono. C'est dans la région de Ségou. Des chasseurs traditionnels d'Ozo sont pointés du doigt. Donc, depuis l'apparition en 2015 au Mali du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les peuls, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies Bambara et Dogon qui ont créé le groupe d'autodéfense.
La France se prépare à rendre hommage aux deux militaires tués en libérant des otages dans le nord du Burkina Faso. La sud-coréenne secourue en même temps que les otages français est une simple touriste enlevée à la frontière du Bénin, a affirmé un responsable de son ambassade à Paris. Une quatrième otage, une américaine sur laquelle rien n'a filtré, a aussi été libérée. La présence de ces deux femmes captives ensemble depuis 28 jours, selon l'état-major français, était inconnue des autorités.
Dans l'extrême nord du Cameroun, une nouvelle attaque attribuée à Boko Haram ce week-end dans la ville de Gochi. Des dizaines de maisons et une église ont été incendiées. Le point avec Raïssa Girondin.
L'attaque a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Gochi, dans l'extrême nord du Cameroun, près de la frontière avec le Nigeria. Des hommes armés ont incendié 60 maisons, 11 commerces et une église. Il n'y a pas eu de victimes parmi les civils, mais un des assaillants a été tué, d'après des sources sécuritaires. Les assaillants, qui étaient une centaine, sont venus à 22h et ont immédiatement attaqué le village endormi, selon un habitant de Gochi. Le 19 avril, 11 civils, dont des vieillards et des enfants, ont été tués dans cette même région. Depuis son apparition au Nigeria en 2009, Boko Haram et la répression par l'armée ont fait au moins 27 000 morts. Par ailleurs, le Cameroun est confronté à une crise dite anglophone qui sera abordée aujourd'hui, la première fois en 2 ans, par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce conflit armé, d'après des ONG, a déjà fait plus de 2000 morts et 35 000 réfugiés au Nigeria voisin.
En Centrafrique, un des principaux groupes armés accuse le gouvernement d'avoir violé l'accord de paix de Khartoum en déployant ses troupes à Kagabandoro, dans le centre du pays. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après Abdoulaye Hissène, président du Conseil national de défense et de sécurité, formation militaire regroupant différents groupes armés de l'ex-Séléka, ce déploiement des forces armées centrafricaines à Kagabandoro s'apparente, je cite, à une violation de l'accord par le gouvernement. Il a toutefois réaffirmé toujours adhérer pleinement à l'accord. Le 5 mai dernier, les FACA sont entrés à Kagabandoro pour une mission de reconnaissance et sont repartis quelques heures plus tard. La ville est sous contrôle du mouvement patriotique pour la Centrafrique, le MPC, dirigé par Al-Khatim, qui est un autre signataire de l'accord de Khartoum. Cet accord de paix a été signé début février à Bangui entre 14 groupes armés et les autorités. Il prévoit la mise en place de patrouilles mixtes pour une période initiale de 2 ans pour établir la sécurité sur l'ensemble du territoire. Plus de 3 mois après, ces patrouilles mixtes ne sont toujours pas opérationnelles. Initié par l'Union africaine, cet accord est le 8e depuis le début de la crise en 2013.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi exige un comportement exemplaire des nouveaux gouverneurs de province, en majorité des proches de l'ancien président Joseph Kabila, en les mettant en garde contre la corruption et les tracasseries. Vous avez l'obligation d'élaborer vos programmes en intégrant ma vision qui vise le développement intégral de notre pays, a insisté le chef de l'État.
Et dans l'est de la RDC, nouvelle attaque contre un centre de traitement d'Ebola à Katwa. Un assaillant a été tué cette nuit dans la contre-offensive des forces de sécurité. Nous y reviendrons en deuxième partie de cette édition.
Les généraux soudanais et les représentants de la contestation populaire viennent de conclure un accord sur un nouveau conseil souverain qui va remplacer le conseil militaire. Le point avec Irénée Armanoumbo.
Nous nous sommes mis d'accord sur la structure d'un conseil souverain qui inclura des représentants des militaires et des civils, a déclaré Taha Osman, un des porte-parole de l'Alliance pour la liberté et le changement. Les discussions de demain mardi vont porter sur la composition du nouveau conseil, a-t-il ajouté. Le conseil militaire et les représentants du mouvement de contestation avaient repris tôt ce matin des discussions sur le transfert du pouvoir à une autorité civile exigée par les manifestants qui participent depuis des semaines à un sit-in à Khartoum. Les deux parties divergeaient sur la composition d'un organe appelé à remplacer le conseil militaire qui a pris le pouvoir après l'éviction du président soudanais Omar el-Béchir le 11 avril. L'Alliance pour la liberté et le changement veut qu'il soit dominé par les civils, tandis que l'armée cherche à ce qu'il comprenne une majorité de militaires.
Signalons que le président déchu Omar el-Béchir a été inculpé pour le meurtre de manifestants pendant les protestations contre son régime, d'après le procureur général soudanais.
Sur la Libye, l'Union européenne condamne l'offensive des forces du maréchal Haftar contre Tripoli, y voyant une menace pour la sécurité et la stabilité de la Libye. L'Europe appelle à un cessez-le-feu immédiat. Jusque-là, le maréchal Haftar est resté sourd à tous les appels à une trêve et les grandes puissances restent divisées au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, la Chine a annoncé ce lundi qu'elle allait augmenter ses droits de douane sur des produits américains représentant 60 milliards de dollars d'importation annuelle. C'est en représailles aux mesures prises par Donald Trump, les précisions de John Hindon.
Ce lundi, le bureau de la commission tarifaire du gouvernement chinois a annoncé qu'à partir du 1er juin, les tarifs douaniers seront relevés à 10, 20, voire jusqu'à 25% sur un ensemble de marchandises américaines déjà taxées. Malgré les menaces de Donald Trump qui dans un tweet estimait que la Chine ne devrait pas riposter, le gouvernement chinois affiche donc sa détermination. Pékin avait promis à plusieurs reprises ces derniers jours qu'il allait prendre des mesures de représailles. Pour le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, la Chine ne cédera jamais à aucune pression extérieure. De nouvelles négociations visant à mettre un terme à la tension commerciale entre les deux pays se sont achevées vendredi à Washington sans accord. Le conseiller économique du président américain Larry Kudlow a affirmé qu'une rencontre entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping est envisagée en marge du sommet du G20 les 28 et 29 juin à Osaka, au Japon.
Les chefs de diplomatie européens se disent inquiets du regain de tension entre Washington et Téhéran. Le secrétaire d'État américain a pris part à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles pour discuter de questions urgentes et notamment de l'Iran. Ils ont signifié à Mike Pompeo leurs préoccupations face au risque d'un conflit par accident dans le Golfe. La position américaine d'augmenter les pressions et les sanctions ne nous convient pas, a indiqué le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.
Quatre navires ont été la cible d'actes de sabotage au large des Émirats, selon Riyad et Abu Dhabi, provoquant une montée des tensions dans le Golfe. Les autorités iraniennes ont appelé à l'ouverture d'une enquête.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a remporté les législatives du 9 avril, a jusqu'à la fin de ce mois pour former un nouveau gouvernement de coalition. Le premier ministre sortant ne s'est pas acquitté de la tâche dans le délai initialement imparti de 28 jours, mais il a demandé 2 semaines supplémentaires au président, comme le lui permet la loi. M. Netanyahou a invoqué les violences survenues dans la bande de Gaza début mai et une succession de jours fériés pour justifier le peu de progrès dans les négociations pour la formation d'un gouvernement.
En Syrie, au moins 35 combattants ont été tués en 24 heures dans des affrontements entre les forces du régime syrien et des groupes armés dans le nord-ouest du pays, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'escalade de ces dernières semaines est la plus violente depuis que Moscou et Ankara ont annoncé en septembre 2018 un accord sur une zone démilitarisée à Idlib. Ce lundi, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont appelé à cesser l'escalade militaire à Idlib.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
La Banque africaine de développement promet que les travaux du pont entre Kinshasa et Brazzaville seront lancés en août 2020 pour 550 millions de dollars. L'ABAD contribuera à hauteur de 210 millions de dollars. Capitales les plus rapprochées au monde, Brazzaville et Kinshasa sont séparées par le fleuve Congo, large de 4 km. Ce pont, envisagé depuis plus d'un demi-siècle, a toujours du mal à voir le jour. La Cominac, une des deux filiales nigériennes du français Orano, pourrait fermer en raison des prix de l'uranium très bas et des coûts de production élevés. Le prix spot de l'uranium ne dépasse pas 36 000 francs CFA, alors que les coûts de production de la Cominac vont jusqu'à 50 000 francs CFA. Selon Hassan Barazé, le ministre des Mines du Niger, la Cominac vit déjà avec un découvert de 12 milliards de francs CFA. Elle va sans doute clôturer l'année avec une perte de 8 milliards de francs CFA. Pour terminer, la ZTDC, la Compagnie nationale d'électricité du Zimbabwe, a commencé aujourd'hui à imposer des coupures tournantes drastiques qui affectent les industries et les commerces. La société attribue ces mesures au faible niveau des eaux à son barrage de Kariba et à la vétusté de ses équipements. La ZTDC peut produire un maximum de 969 MW par jour pour une demande évaluée à 2100 MW.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Athlétisme, l'Afrique du Sud relance l'affaire Caster Semenya.
Oui, la nation arc-en-ciel va faire appel du jugement controversé du tribunal arbitral du sport qui impose à Caster Semenya de prendre des médicaments pour baisser son taux de testostérone. Nous allons faire appel aussi vite que possible, a déclaré Vuyo Maga, porte-parole du ministère des Sports. Le 1er mai, le TAS a rejeté le recours de Caster Semenya contre les règles de la Fédération internationale d'athlétisme visant les athlètes hyper-androgènes, comme la triple championne du monde sur 800 mètres. Le tribunal a toutefois sommé l'I2AF d'amender son règlement en exprimant, je cite, « de sérieuses préoccupations au sujet de la future application pratique de ce règlement ».
Basketball, Toronto rejoint Milwaukee en finale de la Conférence Est.
Et oui, les Raptors ont remporté le 7e et dernier match 92-90 et se sont imposés 4-3 face aux Sixers du Camerounais Joel Embiid en demi-finale de la Conférence Est. La faute à un improbable panier à la dernière seconde de Kawhi Leonard. La balle a fait 4 rebonds sur l'arceau du panier avant de finalement rentrer pour donner la victoire aux Raptors. La franchise canadienne participera pour la deuxième fois de son histoire à la finale de la Conférence Est après 2016 où elle s'était inclinée face au Cleveland Cavaliers de LeBron James 4-2. Elle sera opposée à partir de mercredi aux Milwaukee Bucks, meilleure équipe de la saison régulière qui a fait forte impression en demi-finale de conférence face à Boston 4-1.
Football, trois Africains en tête des meilleurs buteurs de la Premier League.
Et oui, il s'agit du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang d'Arsenal, du Sénégalais Sadio Mané et de l'Égyptien Mohamed Salah de Liverpool. Les trois attaquants ont fini chacun avec 22 buts. Toutefois, c'est à Aubameyang que revient le titre de meilleur buteur. En effet, l'attaquant des Gunners a marqué les 22 buts en jouant pendant 2731 minutes, alors que Sadio Mané a eu un temps de jeu de 3085 minutes. Quant à Salah, il a joué pendant 3256 minutes et finit donc troisième meilleur buteur.
Mondial 2019 des dames, les États-Unis dominent l'Afrique du Sud en amical.
Les Américaines, championnes du monde en titre, ont dominé hier les Sud-Africaines 3-0 en match de préparation à Santa Clara en Californie. Les États-Unis ont su classer la rencontre 19 tirs cadrés contre 5 pour l'Afrique du Sud et monopoliser le ballon 70%, mais ont dû attendre l'heure de jeu pour assurer leur victoire. Samantha Mewis a réalisé un doublé avant que Carly Lloyd n'alourdisse la marque dans le temps additionnel pour son 108e but sous le maillot des Team USA, ce qui la place désormais au 4e rang des meilleures buteuses de l'histoire de la sélection américaine. L'Afrique du Sud est logée dans le groupe B en compagnie de l'Allemagne, la Chine et l'Espagne. La compétition aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet prochain.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec et Abdourahmane Dia. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour.
La situation sécuritaire s'est beaucoup détériorée ces derniers mois au Burkina Faso. Les attaques armées se sont multipliées dans le nord du pays. Effet nouveau, en l'espace de quelques semaines, deux églises ont été la cible d'hommes armés faisant 12 morts. Sur la détérioration progressive de la situation sécuritaire, Bagassi Koura a joint à Ouagadougou l'analyste Siaka Koulibaly.
La situation s'est beaucoup détériorée parce que beaucoup d'experts établissent que le terrorisme gagne du terrain, ne serait-ce que par la progression géographique. On avait commencé avec le Soudan en 2016. On se retrouve maintenant au San Matenga, à 100 km de Ouagadougou maintenant, avec Kongoussi qui est déjà au cœur du cyclone. Ce qui montre que territorialement, la limite que le groupe Ansarul Islam s'était fixée en 2016, qui portait sur Yalgo, entre Kaya et Dori, est largement dépassée. Aujourd'hui, on est à quelques encablures de la ville de Kaya, et qui montre donc que le terrorisme a gagné beaucoup de terrain. Il y a aussi un dépassement du conflit, qui est parti des cibles ciblées militaires de 2016 à 2018, et passage en 2019 à des cibles civiles, hein, les groupes communautaires avec l'aspect ethnique Yirgu et Arvinda, et maintenant la dimension religieuse qui est la pire forme du terrorisme. Parce que ça va donc avec la dimension religieuse. On a un développement exponentiel du conflit, étant donné que ça touche un nombre incalculable d'acteurs. Et deuxièmement, il y a la durabilité du conflit lorsque les dimensions religieuses sont incluses.
Alors, et qu'en est-il des mesures prises par le gouvernement? Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain?
Concrètement, donc, le gouvernement essaie de mener des initiatives tendant à résorber la question du terrorisme. Il y a les efforts budgétaires qui sont réalisés. Il y a aussi les initiatives G5 Sahel qui étaient supposées amener la mutualisation des efforts entre les pays concernés par le terrorisme. Et malgré tout cela, on se rend compte que le terrorisme prend encore de l'ampleur. Peut-être parce que l'approche stratégique du conflit est une approche militaire exclusivement, et qui démontre que le côté social devrait aussi faire partie, ne serait-ce que pour renforcer la dimension renseignement et la dimension civilo-militaire de la lutte antiterroriste, qui, à mon sens, ne sont pas suffisamment développées à l'heure actuelle.
C'était l'analyste politique burkinabé Siaka Koulibaly.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies discute de la crise en région anglophone du Cameroun pour la première fois en 2 ans. Ce conflit armé s'est intensifié avec de nombreux déplacés anglophones vers les zones francophones où ils vivent dans des conditions très difficiles. Reportage à Yaoundé de Moki Edwin Kimzeka, récit Claire Morin-Gibourg.
En visite samedi au marché de Bamenda, la principale ville anglophone, le premier ministre camerounais, Joseph Dion Goûté, a supplié la population à convaincre ceux qui ont rejoint les combattants séparatistes de revenir chez eux. Selon le premier ministre, le président Paul Biya est prêt au dialogue, mais exclut toute partition du pays. Dans le même temps, l'armée a annoncé avoir tué plus d'une vingtaine de combattants combattants et détruit plusieurs de leurs camps. Les cris du bébé de Flora Yenos résonnent dans l'église catholique Obili de Yaoundé. Madame Yenos dit avoir échappé au combat la semaine dernière dans son village de Bafangi, dans le nord-ouest. Son mari a été tué lors d'affrontements avec l'armée. Elle raconte qu'à son arrivée à Yaoundé avec ses quatre enfants, il n'avait rien à boire ni à manger et ne savait pas où dormir. L'église d'Obili l'a autorisée à utiliser une salle de classe et a appelé ses fidèles à l'aider, car aucun de ses proches ne pouvait le faire, accueillant déjà des déplacés. Elle ajoute que ses enfants sont très malades et manquent de nourriture. La crise a débuté en 2016 lorsque des enseignants et des avocats anglophones ont manifesté contre la domination francophone. Le gouvernement a réagi en réprimant les manifestations. Les séparatistes ont alors lancé un mouvement pour réclamer l'indépendance. Selon les Nations Unies, au moins 500 000 personnes ont été déplacées par les combats. Allegra Bayochi, coordinatrice de l'action humanitaire de l'ONU au Cameroun. Nous sommes pleinement conscients que beaucoup de personnes souffrent et nous devons aider le maximum de personnes possible. Mais c'est la responsabilité du gouvernement de protéger les citoyens. Notre action vient en complément. Selon Human Rights Watch, 1800 personnes ont été tuées et de nombreux détenus torturés. Ilaria Allegrozzi est spécialisée sur l'Afrique centrale pour Human Rights Watch.
Nous avons combiné des témoignages d'anciens détenus, des informations fournies par des familles, des avocats d'anciens détenus, ainsi que des données de médecins légistes qui ont examiné et analysé des photos et des vidéos de détenus ayant été torturés.
L'ONG a appelé le gouvernement à mettre fin à ces pratiques et demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de condamner la torture et le placement en détention au secret. Le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, Paul Atanjanji, accuse les séparatistes d'être responsables de la vague d'enlèvements, de meurtres et d'incendies de bâtiments publics. Il a ajouté que pour rétablir la paix, le gouvernement pardonnera aux combattants qui déposent les armes.
Nous voulons que ce soit très clair. Ceux qui déposent volontairement leurs armes n'iront pas en prison. Ce sont les instructions du président de la République.
Les discussions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont informelles. Les Nations Unies vont demander que le Cameroun ouvre un dialogue inclusif.
Bonsoir à tous, c'est Kiabadou avec vous et je vous donne rendez-vous à 18h en temps universel dans votre émission interactive. À votre avis, 6 personnes dont un prêtre ont été tuées dimanche matin lors d'une attaque pendant la messe dans une église catholique dans le nord du Burkina Faso. En mars dernier, 2 mosquées étaient attaquées en Nouvelle-Zélande. Que pensez-vous des attaques des djihadistes dans des lieux de culte? Comment combattre efficacement les terroristes? Laissez-nous vos commentaires, vos numéros de téléphone sur la page Facebook de VOA Afrique ou appelez-nous en direct au 001 202 205 26 33. Je répète, 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur notre site internet.
Nouvelle attaque contre un centre de traitement d'Ebola dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Les forces de sécurité affirment avoir tué à Butembo un des assaillants, un combattant d'une des nombreuses milices des milices Maïmaï qui pullulent dans la région. Eddie Sango a joint à Beni le porte-parole des forces armées de la RDC dans la région de Beni, Major Mac Ouzoukaï.
Nous armés, nous sommes dans la zone pour combattre ceux qui sont la sécurité, les adhérents et les Maïmaï.
Est-ce que l'armée est omniprésente dans tous les centres de traitement, partout il y a des services de lutte contre Ebola?
Ce n'est pas notre mission, ce n'est pas notre travail. Nous sommes ici pour combattre les Zébés et les Maïmaïs. Comme les Maïmaïs ont tourné le canon vers les équipes de riposte, nous avons aussi changé notre dispositif. Vous savez que selon les droits de la guerre, nous ne pouvons pas nous déployer dans des églises, dans des hôpitaux et ainsi de suite, dans des écoles. Donc, en principe, nous ne devrions pas être omniprésents, à moins qu'on reçoive des ordres encore plus clairs de la hiérarchie. Et nous sommes en train de sécuriser ces équipes-là d'une façon ou d'une autre, bien sûr.
Mais ce sont ces endroits-là qui sont la cible de ces attaques.
La preuve en est que toute tentative va m'éclairer.
Aujourd'hui, il y a une crainte. Les équipes de riposte ne peuvent pas se déployer parce qu'ils sont attaqués. Il y a même un docteur qui est décédé. Donc, ils demandent que l'armée ou la police les sécurise.
Je pense que nous faisons déjà bien notre travail. La preuve en est que les gens qui avaient comploté pour tuer le docteur ont été.
C'était le major Mac Ouzoukaï, porte-parole de l'opération Sukula 1 dans le Nord Kivu, et nous nous excusons de la qualité de cet élément.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En République du Congo, les populations ont diversement accueilli l'annonce du début des travaux du pont reliant Brazzaville et Kinshasa pour 2020. Si nombreux estiment que ce pont est un facteur de développement économique, d'autres y voient une possible cause de l'insécurité à Brazzaville. Le reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
L'annonce de la BAD sur la construction du pont route rail Brazzaville-Kinshasa à partir du août 2020 n'a pas laissé les Brazzavillois indifférents, habitués à des tracasseries administratives et surtout au danger de la traversée par des canons de fortune et des pirogues à pagaies.
Aujourd'hui, le marché d'emploi peut être assez large. Dans les deux capitales ouvertes, on peut avoir un grand informaticien de la RDC et à Brazzaville qui vient travailler qui repart. Donc, il y a beaucoup d'avantages que nous, le premier, c'est de prendre des précautions, comme d'habitude dans la situation des hommes et des biens.
Mais est-ce que entre Brazzaville et Kinshasa, est-ce que nous avons des services de services de migration habilités à faire même face, à contenir, à suivre de près, à contrôler ces flux?
Nous sommes les deux les capitales les plus rapprochées du monde. Mais pour l'instant, pour aller de l'un vers l'autre, il fallait tout un tas de paperasses, des tracasseries, passer par des pirogues trouées et tout. Là maintenant, ça va donner un grand coup de fouet.
Il y a trop de tracasseries en matière de formalité. Il est arrivé plusieurs fois que des bateaux se soient renversés et que les gilets de sauvetage ne sont pas appropriés et tout le monde ne sait pas nager.
Les travaux de ce pont sur le fleuve Congo coûteront en tout 550 millions de dollars, a annoncé à Kinuimi Adenizia, le président du groupe de la BAD, lors d'une visite de 48 heures au Congo. Pour l'analyste économique Augustin Benazo, c'est une bonne nouvelle qui va booster l'économie congolaise.
Nous sommes les deux capitales du monde les plus rapprochées. Donc nous avons une dynamique d'échange qui se fait souvent. Les, quand le dollar augmente, les amis de la RDC viennent acheter le lait chez nous. Et quand le dollar baisse, les amis de la RDC nous ramènent le lait. Donc il y a des échanges qui sont vraiment permanents, qui permettent aux deux pays de profiter de cela. Mais la RDC déjà a un niveau un peu plus avancé par rapport à nous dans, en termes de production, soit manufacturée, industrielle ou agricole. Et donc le Congo devrait mettre en place une stratégie pour renforcer la production locale qui vont faire que les échanges soient un peu gagnant-gagnant.
Alphonse Ndongo, un autre analyste économique, estime que la détermination de la BAD dans ce projet est une réponse aux inégalités constatées dans la répartition des crédits de la Banque panafricaine sur les différentes régions du continent.
L'Afrique centrale n'est pas trop gâtée en matière, n'est-ce pas, de financement de projets de la BAD. À titre d'exemple, l'Afrique de l'Ouest a elle seule réussi à mobiliser plus de 25% de financement de la BAD, tandis que l'Afrique centrale est quasiment en queue de peloton de mobilisation et de financement de la BAD. Un différentiel que la nouvelle équipe gouvernante de la BAD voudrait rattraper.
Les premières études datant de 1971, la réalisation du pont route rail Brazzaville-Kinshasa a beaucoup souffert des pesanteurs politiques et sécuritaires. Du bord du fleuve Congo à Brazzaville en face de Kinshasa, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montout de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition à la mise en onde de Lionel Gaïma, la présentation Morgane Guerriec et Abdourahmane Dia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. VOA